Mais pour ce soir, nous avons le plaisir donc d'entendre Alain Aumont, qui fut directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui travaille ici depuis peut-être une quinzaine d'années maintenant, je ne me souviens plus exactement, 10 ans,
peut-être,
qui était autrefois à 12 ans, donc je ne suis pas tombé loin, qui était autrefois à Grenoble, et qui est spécialiste de l'astrophysique millimétrique et submillimétrique, et qui va nous parler donc... et donc de l'infrarouge. Je vais nous parler ce soir de l'astrophysique de l'infrarouge. Alors je trouve il y a quelque chose qui m'intéresse dans la manière dont Alain a présenté sa première diapositive vidéo, parce que moi je travaille non pas dans l'infrarouge mais dans l'ultraviolet, en particulier la raie Lyman alpha, qui est une raie d'émission extrêmement lumineuse, extrêmement intense, et qu'on retrouve qui permettent de découvrir des objets lointains. Eh bien, on a exactement la même problématique, c'est-à-dire que l'ultraviolet peut servir à la fois pour explorer l'univers proche et aussi pour l'univers lointain. Donc, l'astrophysique aujourd'hui a permet ce plaisir de passer, de permettre un va-et-vient constant entre le lointain et le proche. Et je crois que c'est quelque chose qui est nouveau depuis ces 10 dernières années. Voilà, je te laisse la parole, Alain, et merci.
Merci Daniel, merci de m'avoir donné cette occasion de vous parler ce soir. Le titre, bon, vous voyez, il est un petit peu compliqué. J'ai essayé de rejoindre deux de mes intérêts importants dans les dernières années, qui sont d'une part le travail sur des données infrarouges. Je vais vous parler un petit peu de quelques résultats, tout à fait en passant d'un gros programme que nous avons eu sur le satellite ISO. Un certain nombre d'entre vous savent que ce satellite ISO a volé il y a à peu près 5 ans, un petit peu plus. Et comme l'a dit Daniel, parallèlement, nous continuons à travailler sur des objets qui sont parmi les plus lointains des objets qu'on connaisse dans l'univers, à des redshifts. Et bon, je pense que je vais systématiquement utiliser ce terme qui est toujours franglais, qui sont parmi les plus grands que l'on connaisse dans l'univers, avec d'autres techniques qui ne sont pas directement les techniques infrarouges. Bon, pourquoi j'ai choisi ce domaine infrarouge et le domaine de l'exploration de l'univers? Eh bien, disons, parce que j'ai passé le plus gros de l'année passée à travailler sur un projet qui était justement une nouvelle carte du ciel dans ces longueurs d'onde-là, et qui doit nous permettre, comme on va le voir dans cette causerie, d'aller plus loin qu'on y est dans l'exploration du ciel vers les astres les plus reculés qu'on puisse détecter, donc les plus jeunes, puisque la lumière qui nous envoie, comme vous le savez, a été émise quand l'univers était infiniment plus jeune que maintenant. Bon, ce projet, pour l'instant, est en panne. Donc, quand j'avais accepté de faire cette conférence il y a quelques mois, j'espérais que le projet serait sélectionné par la NASA et qu'on aurait vraiment des perspectives royales. Ceci étant, je savais qu'il y avait un risque et je savais que même sans ce projet, c'est un domaine qui est tellement fantastique qu'il y a, vous allez voir, trop de matière. Mais je passerai un petit peu plus de temps sur les acquis de l'astronomie infrarouge depuis, disons, une vingtaine d'années, qui nous ont permis donc de découvrir non seulement beaucoup de choses sur ces objets bizarres, mais également des choses absolument essentielles sur la façon dont fonctionne l'univers, dont en particulier se forment les étoiles et les galaxies. Juste pour embrayer sur la remarque de Daniel, l'astronomie infrarouge a été pendant très longtemps l'apparente pauvre de l'astronomie optique. D'abord parce que vous savez bien que l'atmosphère absorbe beaucoup l'infrarouge, et ensuite parce qu'il n'y avait pas de plaque photo en infrarouge, et que pendant des générations, des astronomes ont travaillé avec les plaques photo. Maintenant, avec l'avènement des détecteurs, vous avez, certains d'entre vous, entendu parler de ces détecteurs, des matrices de détecteurs photoélectriques, ou fonctionnent en gros sur cette façon-là qu'on appelle les CCD, qui fonctionnent en optique depuis maintenant une vingtaine d'années, et qui, ça a été la révolution de la dernière décennie, sont maintenant d'un usage et de performance dans l'infrarouge qui se rapproche de ce qu'on a dans l'optique. Si étant, comme vous le savez, le décalage vers le rouge des raies spectrales peut atteindre des valeurs considérables et, pour les objets les plus lointains de l'univers, leur longueur d'onde principale d'émission se situe maintenant dans le domaine infrarouge, ce qui explique que l'infrarouge est le domaine qui devient tout à fait essentiel pour l'exploration de l'univers lointain. Donc, très rapidement, je vais balayer un certain nombre de choses, d'abord sur les propriétés élémentaires de l'infrarouge, en demandant à ceux qui connaissent à fond ce genre de choses de bien vouloir m'excuser pendant quelques instants. Puis, très rapidement, sans entrer dans aucun détail, j'essaierai de vous faire comprendre ce qui est important dans les techniques infrarouges, le type, de faire une synthèse du type d'instrumentation et de télescope qu'on utilise par rapport à ce qui se passe dans le visible. Comme l'atmosphère absorbe l'infrarouge, la possibilité d'observer dans l'espace a marqué le véritable début de l'astronomie infrarouge moderne, avec le satellite IRAS en particulier, il y a maintenant tout juste 20 ans. Donc, je repasserai en vue la galerie des objets infrarouges importants, ce qui permettra de faire un petit bilan des découvertes majeures que l'astronomie infrarouge a accumulées depuis, disons, une cinquantaine d'années. Bon, donc ici, vous revoyez une nouvelle fois le spectre du rayonnement électromagnétique, juste pour recaler les choses, savoir que le domaine auquel nous sommes suspendus, le domaine visible qui correspond au maximum d'émission du Soleil et au maximum de sensibilité de notre œil, est un tout petit domaine dans cette énorme étendue de longueur d'onde et donc d'énergie des photons, et que donc à côté de ce domaine, vers les plus grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers les plus petites énergies des photons, vous avez un domaine infrarouge qui démarre vers au bord du rouge, comme le nom l'indique, pour aller jusque jouxter le domaine de la radio au-delà de vers un millimètre à peu près, un petit peu avant un millimètre. Donc vous voyez, par rapport au visible, ça fait un domaine qui est beaucoup plus grand et qui en fait est beaucoup plus varié que le domaine visible. Donc on l'a découpé en un certain nombre, en gros, trois grands domaines, proches, moyens et lointains. Je ne vais pas insister donc sur le détail de ces longueurs d'onde, mais je parlerai tout de même beaucoup plus de l'infrarouge proche qui se rapproche des propriétés du domaine visible et qui reste encore le domaine essentiel pour essayer donc d'explorer notre univers le plus lointain. J'aurais pu centrer cette conférence sur le domaine submillimétrique, qui est un domaine qui est en plein développement, pour lequel la France a participé à la construction d'un énorme radiotélescope au Chili, mais on ne peut pas parler de tout, évidemment, la même chose. Donc ici, juste de façon schématique, pourquoi est-ce que l'espace est important? Je vais y revenir, mais juste, je veux vous marquer ici, vous avez ici la transmission de l'atmosphère, ou plutôt l'absorption de l'atmosphère. Donc quand on est à 100%, tout le rayonnement est bloqué. Vous savez, l'ultraviolet est bloqué, les rayons X sont bloqués, et une bonne partie de l'infrarouge est complètement bloquée, tout l'infrarouge un peu lointain. Bon, cette courbe est approximative. Vous voyez que le visible est dans une très bonne fenêtre de l'atmosphère, c'est une chance, hein, que la lumière du Soleil nous arrive, et la lumière aussi des étoiles, c'est une très grande chance pour les astronomes qu'ils ont exploité pendant des millénaires, que la lumière des étoiles nous arrive avec peu d'absorption. Et vous voyez que au voisinage de l'infrarouge, voilà l'infrarouge proche ici, cette absorption est d'abord à peu près supportable, puis devient assez dramatique. Bon, donc juste pour situer les idées, infrarouge, je vous ai dit, c'est des photons qui ont peu d'énergie, donc ça va correspondre à des objets relativement froids. Je ne vais pas vous refaire une théorie du rayonnement thermodynamique, qu'on appelle souvent le rayonnement de corps noir, mais retenez simplement que plus la température d'un corps diminue, plus la longueur d'onde moyenne de son rayonnement thermique augmente. Le Soleil, qui qui a une température, la surface du Soleil, hein, faut pas confondre avec l'intérieur, qui a une température de quelques milliers de degrés, émet au centre du visible vers 0,6 micromètres dans cette unité. Vous descendez la température d'une étoile, et maintenant on connaît les étoiles avec ces températures-là, grâce à l'infrarouge précisément, eh bien le maximum d'émission va être déplacé vers l'infrarouge, vers 1, 2 ou 3 microns. Si on décroît encore la température des corps, mais là, ce n'est plus vraiment des étoiles, c'est la poussière interstellaire ou circumstellaire qui peut descendre à des températures qui sont quasiment, vous savez, ça c'est des Kelvin, donc 300 Kelvin, c'est à peu près notre température, le maximum d'émission va se situer vers 10 micromètres. Et si on va encore beaucoup plus froid, comme une bonne partie des poussières interstellaires, on va à 100 micromètres. Donc ça explique que pendant très longtemps, enfin que de façon générale, sauf quand il n'y a pas de déplacement de décalage spectral cosmologique, les corps qui émettent en infrarouge sont les corps froids. Donc voici une de ces étoiles très froides qui a été découverte par un de ces grandes cartographies du ciel il y a quelques années, une opération qui se termine actuellement sur laquelle je vais revenir. Étoile très très froide qui ressemble un peu à une grosse planète qui est dominée par les rayons du méthane comme Jupiter ou Saturne. Et voici un objet connu en infrarouge depuis quelques décennies sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui est une de ces géantes rouges tout à fait à la fin de leur carrière, qui, au moment de, juste avant de mourir, disons, éjectent toutes leurs couches extérieures qui se refroidissent et dans lesquelles les éléments réfractaires se condensent pour former des poussières circumstellaires. Et ces poussières circumstellaires, maintenant, on les voit non seulement par cette émission infrarouge, mais on a pu en retrouver des traces dans des météorites. Il y a des grains dans certaines météorites qui viennent probablement directement d'une de ces étoiles. Donc, voilà encore ces poussières circumstellaires, mais cette fois-ci, vues à l'échelle de notre galaxie, hein, de la Voie lactée, en infrarouge, voilà le ciel qu'a vu le satellite IRAS. Un des intérêts de l'infrarouge aussi, c'est que le rayonnement est très peu absorbé par les poussières interstellaires et que donc les parties centrales de notre galaxie, qui sont les plus actives en production d'énergie avec les jeunes étoiles, qui à notre œil apparaissent noires, parce que cachées derrière d'énormes nuages de fumée, de poussière interstellaire, eh bien en infrarouge, cette lumière peut sortir de la poussière et nous arriver. Et on voit, disons, un panorama qui est beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on voit quand on voit la Voie lactée à l'œil nu par une soirée d'été. Ici, j'insiste pas là-dessus, c'est avec une forme un peu compliquée, c'est en fait le rayonnement de la poussière zodiacale qui est dans le disque de l'écliptique autour du Soleil. Donc ici, il y a quelques agrandissements de ce qu'on voit les satellites infrarouges. Ici, ce qu'on appelle un cirrus interstellaire, ça a été une des grandes découvertes d'IRAS, qui a surpris beaucoup les promoteurs d'IRAS, de découvrir qu'il y avait de la poussière partout, et de l'émission à 100 microns, un peu partout, ça a gêné d'ailleurs les observations d'IRAS, qui s'est dû à des nuages assez ténus, comme ces nuages de haute altitude qu'on appelle cirrus. Si vous passez de ces régions donc ténues à la région où l'émission est maximum au voisinage de ce qu'on appelle le centre galactique, le point central de la Voie lactée, un peu en gros le point autour duquel tourne toute la Voie lactée, vous savez aussi probablement qu'en ce point, maintenant on est à peu près sûr, qu'il y a un énorme trou noir de à peu près 2 millions de masses solaires et dont l'existence a été confirmée grâce à l'infrarouge qui permet de voir les étoiles, et on voit maintenant des étoiles. On a publié il y a quelques semaines la première orbite elliptique complète d'une étoile autour de ce trou noir de la Voie lactée. Bon, donc cette carte-là, c'est en grande partie une carte que nous avons obtenue avec le programme que nous avons eu sur le satellite ISO. En fait, c'est un petit peu abusif, parce que ISO était tellement sensible qu'on n'a pas pu observer les régions les plus sensibles, les plus brillantes. Ici, vous voyez toute la région centrale, où il y a des nids de jeunes étoiles très massives, très lumineuses, qui chauffent énormément la poussière autour, ça saturait complètement et ça pouvait affecter les détecteurs d'ISOCAM, les caméras d'ISO. Donc, par contre, on a observé la plus grande partie de cette région, et vous voyez, spectaculaire, le nombre de points blancs qui sont soit des jeunes étoiles, soit des géantes rouges. Des régions, au contraire, qui sont complètement opaques, ça veut dire qu'il y a ici un gros nuage de poussière. Je vous ai dit tout à l'heure que l'infrarouge passait à travers la poussière, ce n'est pas tout à fait vrai. Et quand le nuage est trop gros, ben, plus rien ne passe. Ici, vous avez une autre région fameuse de formation d'étoiles aussi. Donc on est en train d'analyser toutes ces questions-là. J'ai passé une bonne partie de la semaine à terminer, à aider un thésitif qui a travaillé essentiellement sur cette question-là, Frédéric Schuller. Et vous avez ici, par exemple, un des champs qu'il a le plus étudié. On est là, un petit peu décalé par rapport au centre galactique. Le centre galactique, il est là, en fait. Vous voyez. On n'est pas très loin, on est vraiment tout près, à peu près 100 années-lumière. Bon, c'est pas tout près, mais enfin, à l'échelle de la galaxie, c'est pas grand-chose. Et vous voyez la richesse, un peu, quand on agrandit un petit peu, de ces régions-là. En jeunes étoiles, les rouges, c'est probablement des jeunes étoiles. Les plus blanches, c'est des étoiles du type en fin de carrière, mais toutes, pas tout à fait, mais la plupart, ont beaucoup de poussière tout autour et sont extrêmement lumineuses. Donc l'infrarouge permet de faire un bilan de la formation des étoiles dans cette région extrêmement particulière qui nous donne des informations très précieuses sur ce qui peut se passer au centre des galaxies. On est infiniment plus près du centre de notre galaxie que des autres galaxies, mais jusqu'ici, toute l'information qu'on pouvait en tirer, donc on n'avait pas l'infrarouge, était assez limitée. Donc je termine cet inventaire, mais ici vous avez une galerie qu'on aurait pu multiplier. J'ai pris ici trois cas spectaculaires de régions de formation d'étoiles où vous avez des nébuleuses infrarouges. Et vous voyez qu'on arrive, dans certains cas, ça c'est une photo que nous avons obtenue, une image que nous avons obtenue avec notre programme, on arrive à voir des images qui commencent à ressembler aux images qu'on avait en optique. Ça, c'est la fameuse région que vous avez dû tous voir, où le Space Telescope a fait des images absolument fantastiques de régions de formation d'étoiles qui ont une forme soit de trompe d'éléphant, soit de piliers de poussière. Je vais vous montrer un agrandissement de cette image-là. Vous voyez les détails et la complexité de ce milieu. Et en fait, ce qui émet le rayonnement bleu, on est maintenant à peu près sûr que ce sont des molécules aromatiques polycycliques, des molécules extrêmement cancérigènes, qui ont été une des grandes découvertes de l'astronomie infrarouge, et l'astronomie infrarouge française, par nos collègues Puget et Léger, qui ont mis en évidence qu'une bonne partie du carbone interstellaire est sous la forme de ces carbures polycycliques aromatiques. Bon, juste un mot de Orion, qui est une des régions de formation d'étoiles les plus étudiées, en particulier à toutes les longueurs d'onde, où l'infrarouge a permis récemment de découvrir des tout petits objets de la masse de masse égale à quelques fois la masse de Jupiter, qui viennent de se former dans cette nurserie d'étoiles. Il y a non seulement des jeunes étoiles de la masse du Soleil, mais il y a des toutes petites étoiles, une multitude de petites étoiles, qui étaient totalement inconnues, et c'est une surprise d'ailleurs, de voir qu'il y en a tant. On pensait que la distribution de masse s'arrêtait plutôt. Bon, l'autre grande classe, évidemment, d'objets de l'astronomie infrarouge, ce sont les galaxies. Je vous ai montré, toutes les galaxies émettent dans l'infrarouge. La Voie lactée, comme vous avez vu, globalement, émet beaucoup. Mais il y a des galaxies qui, relativement, émettent la plus grande partie de leur énergie dans l'infrarouge. Les étoiles lumineuses, énergétiques, qui sont dans cette galaxie, c'est la même situation que dans le centre de la nôtre, sont placées dans une enveloppe, un cocon de poussière, et tout le rayonnement ultraviolet des étoiles est stoppé par la poussière, qui est chauffée, mais pas à des températures très élevées, et qui réémet cette poussière dans l'infrarouge, qui peut s'échapper beaucoup plus facilement que dans le domaine visible. Donc ces objets-là ne sont quasiment pas visibles par un télescope visible, mais sont des phares absolument fantastiques dans l'infrarouge et dans le semi-millimétrique. Voilà une de ces galaxies ultra-lumineuses qui a été découverte. Cette classe de galaxies a été découverte par le satellite IRAS il y a 20 ans. Et on pense qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses il y a 10 milliards d'années, au début de l'univers, quand la plus grosse partie des étoiles se sont formées, et qu'une bonne partie de la formation des étoiles de l'univers, qu'on voit maintenant dans les galaxies, s'est faite dans ces objets de ce genre-là, quand l'univers avait en gros 1 milliard d'années. Enfin, je termine par une dernière classe extrêmement importante qui est plutôt reliée aux étoiles en formation. Vous avez vu que les jeunes étoiles, dont on sait bien qu'elles se forment à partir des nuages moléculaires, qui contiennent également de la poussière, donc au moment de la formation des étoiles, elles restent entourées de poussière, et c'est une partie de cette poussière qu'on a vue sur les figures précédentes. Mais une fois que l'étoile est formée, même des petites étoiles, comme le Soleil, celle-là est un peu plus massive, conservent pendant, disons, quelques centaines de milliers, millions, voire dizaines de millions d'années, de la poussière autour d'elle. À la limite, on peut même dire que le Soleil, vous avez vu tout à l'heure la lumière zodiacale, hein, la lumière qu'on voit dans le plan du zodiaque, là, le plan de l'écliptique, où sont les planètes, il y a des débris de poussière qui proviennent des comètes qui se sont désagrégées dans ces domaines-là. Et donc, autour d'autres étoiles, une poussière un petit peu du même type, mais beaucoup plus abondante, donne lieu à des phénomènes très spectaculaires, comme autour de cette étoile Beta Pictoris, qui est entourée encore d'un disque, on dit quelquefois un disque de débris de comètes. L'étoile est au début de sa carrière, et les comètes sont infiniment plus nombreuses que ce qu'on a maintenant, c'est un vrai feu d'artifice. Et donc, vous avez probablement entendu des conférences sur cet objet ici, puisque l'équipe de Vidal-Majar et de Fairley est une des plus en pointe sur cet objet-là dans l'astronomie mondiale. Les comètes elles-mêmes sont des objets qui ne sont pas négligeables pour l'astronomie infrarouge. Vous pouvez faire de la spectroscopie et regarder les molécules qui sortent de la comète grâce à l'astronomie infrarouge. Les planètes aussi, je ne vais pas vous donner d'exemple, mais une bonne partie de ce qu'on sait sur la composition de l'atmosphère des planètes, comme Jupiter, Saturne, Titan, provient de l'infrarouge. Bon, donc, pour récapituler, comment est-ce qu'on fait l'astronomie infrarouge? On peut faire des observations dans l'infrarouge proche. Hein, on a vu tout à l'heure que l'atmosphère restait approximativement transparente, au moins pour certaines longueurs d'onde, dans l'infrarouge proche. Par contre, que l'espace est tout à fait indispensable. Dès qu'on dépasse 10 ou 20 micromètres, exactement 30 micromètres, et même dans des domaines où l'atmosphère est encore un peu transparente, on a d'énormes avantages, on va voir tout de suite un petit peu quantifier cela, à travailler dans l'espace par rapport à l'atmosphère. Non seulement il n'y a plus l'absorption, hein, il n'y a plus ces molécules qui absorbent, mais je dirais surtout il n'y a plus l'émission de l'atmosphère et beaucoup moins d'émission du télescope et de toute l'optique. Hein, on n'a pas du tout une idée, comme notre œil n'est pas adapté dans l'infrarouge, de la brillance du ciel infrarouge, hein, de l'atmosphère. Et ça explique aussi l'énorme difficulté de l'astronomie infrarouge. On travaille sur un fond de ciel qui est comme un four, hein, d'une certaine façon. Bon, c'est un four à 300 degrés, mais en termes relatifs, par rapport aux étoiles qu'on essaye de voir à travers, il faut se débarrasser et compenser et calculer et éliminer l'effet de l'émission du ciel et aussi l'émission du télescope. Et donc, au sol, il est impossible d'avoir un télescope plus froid que moins quelques dizaines de degrés Celsius. Par contre, dans l'atmosphère, on peut descendre beaucoup plus facilement le télescope, si on le protège bien du soleil, à des températures où il rayonne beaucoup, très peu. Alors, par contre, évidemment, c'est beaucoup plus cher de travailler dans l'espace et ça se traduit par la difficulté d'avoir des gros télescopes. Donc, généralement, la plupart des résultats que vous allez voir ici de l'espace sont venus de petits télescopes. On va changer cette situation avec le nouveau télescope dont je vais beaucoup vous parler, qui est le successeur de Hubble, qui, lui, va fonctionner dans l'infrarouge et qui va être un télescope de 6 mètres au lieu de 2,40 mètres pour Hubble. Haute difficulté dans l'espace. On a besoin donc de refroidir l'optique et surtout les récepteurs. Et donc, ça se fait normalement avec des fluides cryogéniques, de l'azote liquide, de l'hydrogène liquide ou de l'hélium liquide. Et évidemment, on ne peut pas les renouveler quand ils se sont évaporés. Donc, c'est une des grandes limitations d'une bonne partie de ces missions infrarouges dans l'espace. Là, je vous remontre l'absorption. Ici, voilà l'émission. Voilà l'émission typique en fonction de la longueur d'onde que voit un télescope ou un astronome quand il travaille dans les meilleurs sites à partir du sol. Si vous prenez le site d'Hawaï ou le site du Paranal au Chili, ce n'est pas encore trop dramatique quand vous êtes... déjà même vers 1 ou 2 microns, vous avez une forêt de raies, qui sont des raies du OH, de la haute atmosphère. Et puis, quand vous allez plus loin, dès que vous dépassez 2 ou 3 microns, ça monte, vous voyez, ça monte par un nombre de facteurs 10 absolument faramineux. Par contre, là où va être placé ce nouveau télescope spatial, à une unité astronomique du Soleil, à peu près, vous voyez la différence de fond. Là, il ne reste plus que le fond de la lumière zodiacale. Vous voyez qu'il y a un facteur en gros d'un million ici de différence. Donc ça change complètement les performances et les limites de détection que vous pouvez imaginer. Bon, donc voilà juste maintenant pour schématiser les hauts lieux de l'astronomie infrarouge. Vous avez d'abord donc ces meilleurs sites sur la Terre, qui sont utilisés actuellement par l'astronomie au sol. Il y en a deux essentiellement. L'une à Hawaï, où vous avez les télescopes de Keck des Californiens. La France a un télescope avec Hawaï, avec le Canada, mais qui est beaucoup plus petit. L'Angleterre en a un ou deux. Et voilà donc la grande réalisation de l'astronomie européenne des dernières années, le grand succès. Vous avez tous vu cette photo du Paranal avec les quatre télescopes de 8 mètres et du VLT, donc, qui fonctionnent surtout dans le visible, mais passent une partie de leur activité à observer l'infrarouge. Voilà donc ce satellite ISO, je vais vous montrer un agrandissement de cette vue. Voilà un télescope spatial typique, et un peu tous les télescopes infrarouges se ressemblent. Vous avez un miroir central qui devait faire, je crois, 60 cm, qui est là, c'est le miroir primaire du télescope, vous avez un miroir secondaire, donc le rayonnement de l'étoile arrive là, se réfléchit et puis revient vers les détecteurs qui sont par là. Tout ça est dans un énorme réservoir d'hélium superfluide qui a duré 30 mois. Et ça a été un grand succès de la mission. Parce qu'au départ, on avait peur que ça ne dure que 18 mois. Mais enfin, vous voyez, 30 mois, c'est quand même assez court, et je vous dis que le jour où ça s'est arrêté, où on avait des observations programmées pour le lendemain, c'était une petite déception. Enfin, comme à la fin, on en avait tous les jours, on savait que ça devait se passer, c'était pas si dramatique que ça. Système de panneaux solaires, comme pour tous les satellites, et système, donc, le télescope s'arrange pour tourner le dos au Soleil, pour ne pas avoir de lumière parasite, de façon générale. Alors, repassons donc rapidement en vue les autres éléments de la technique. Un élément absolument essentiel, mais je n'ai pas du tout entré dans les détails, c'est les détecteurs. Avec, bon, certes, l'espace est essentiel, certes, la technique des télescopes est importante, mais l'amélioration des détecteurs en infrarouge a été quelque chose d'absolument spectaculaire. Il y a 20 ans, les astronomes travaillaient encore avec des détecteurs uniques. Et 40 ans, c'était des détecteurs aux performances absolument ridicules. Même. Donc on est passé en 20 ans du détecteur unique. Il fallait, quand on voulait faire une carte, se déplacer point par point, d'une seconde en seconde. Maintenant, on met couramment, tous les projets, les grands projets dont je vais vous parler, ont couramment des détecteurs au moins 2000 par 2000. Ça fait 4 millions de détecteurs sur chacune de ces matrices. Et les plus grands projets combine 16 de ces matrices. Donc, ça coûte cher. Bon, il n'y a pas de mystère. Une partie des développements ont été payés par la recherche militaire. mais une autre partie a été payée aussi par les développements pour le Hubble Space Telescope. Comparé au coût du télescope, ce n'est pas encore très cher. Alors, ces détecteurs sont incorporés dans ce qu'on appelle des instruments, qui sont d'énormes caméras ou d'énormes spectromètres. Je vais vous montrer un agrandissement de celui-là qui est sur le VLT. C'est quelque chose, tant qu'on ne l'a pas vu, hein, ils ont fait la bêtise de ne pas mettre un personnage hein, pour qu'on voit bien la taille, s'il y en a un qui se cale derrière. Hein, mais enfin. Mais ça fait donc le coût de cet instrument-là, c'est un nombre respectable de millions d'euros, hein, de simple instrument. Il y a 8 télescopes avec 2 instruments par télescope. Donc ça devient un coût pas du tout négligeable de l'astronomie moderne, et ça devient aussi une des conditions de succès. Ce n'est pas le tout d'avoir un grand télescope qui marche bien, il faut derrière avoir le meilleur instrument, et en particulier dans l'infrarouge. Et alors l'infrarouge a le problème particulier qu'il faut refroidir, et donc la cryogénie, quand il faut refroidir des volumes de ce type-là, ça coûte extrêmement cher. Alors, je me suis amusé à essayer de reprendre, il y a un site d'ailleurs, je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas un site web qui l'a fait, les Américains vont lancer un satellite qui est un peu l'équivalent d'ISO moderne, qui s'appelle Certif, je vais revenir dessus, dans 2 mois, au mois de janvier. Et ils ont fait un énorme travail de préparation, y compris un énorme travail de préparation, de vulgarisation autour de ce télescope, avec des sites qui n'ont rien à voir avec les maigres sites grand public qu'on peut avoir dans nos instituts et même à l'ESO. Et il y a, je vous donnerai quelques adresses web à la fin, un site, une histoire de l'astronomie infrarouge. Alors ça commence à Herschel, en 1800. Il a vu donc le rayonnement infrarouge du Soleil. Et ça s'accélère, alors ça piétine jusqu'en 1960. 1960, il commence à y avoir, les semi-conducteurs sont là, donc il commence à y avoir des détecteurs presque performants, et on commence à faire des choses, et même à envoyer les détecteurs dans des fusées, des ballons, puis dans un avion. Ça, c'est l'observateur de Kuiper Airborne Observatory, dans lequel j'ai eu la chance de faire quelques observations, c'était sportif et amusant. Ça n'a pas été un énorme profit scientifique. Mais enfin, ça a été un travail de débroussaillage de l'astronomie infrarouge qui a été absolument essentiel pour mettre au point tous ces instruments qui travaillaient dans l'infrarouge lointain et dont on récolte la moisson maintenant. Alors, je saute tout de suite à la grande étape qui a été le satellite IRAS. Malheureusement, la France n'y participait pas directement. C'était un satellite américain avec participation hollandaise et anglaise, qui, pour la première fois, a fait une carte relativement profonde de tout le ciel, dans tout l'infrarouge qui est absolument invisible de la Terre. Et donc, il y a pu, on va revenir sur les découvertes. Parallèlement, alors, il y a une autre grande mission, mais dont je ne vais pas beaucoup vous parler, parce qu'elle était très spécialisée sur le corps noir cosmologique, qui mesure donc des paramètres fondamentaux pour la cosmologie à partir de ce rayonnement qui provient donc... même d'époque bien antérieure à ce dont on va discuter aujourd'hui. Et dans les années 90, quand les détecteurs modernes ont apparu, donc vous avez eu d'abord la grande mission européenne ISO, dont on a déjà vu les résultats, j'en dirai quelques mots, une petite mission américaine, en fait de l'armée américaine, qui a été utilisée dans une des images que je vous ai montrées, qui a fait un excellent travail pour cartographier notre galaxie. Et puis alors, deux grandes opérations, qui ont été menées, qui se terminent toutes les deux quasiment cette année ou dans l'année qui vient, qui consistent en des cartographies du ciel, ces deux opérations un peu parallèles, avec pas tout à fait les mêmes objectifs, mais presque, qui ont été menées d'une part par une équipe américaine très solide, appuyée sur un centre de traitement de Caltech, qui est un peu la mecque de l'astronomie infrarouge, là où le site web dont je vous ai parlé est basé, qui a fait donc une carte de tout le ciel, mais avec une sensibilité qui, par rapport à ce qu'on peut faire maintenant, apparaît déjà presque ridicule, alors qu'ils vont publier leurs résultats dans un mois. Des résultats d'excellente qualité, qui sont extrêmement importants néanmoins. Ils ont trouvé, parallèlement à Denis, les deux missions, ont trouvé, donc, disons, les premières naines brunes qui ne sont pas liées à des étoiles, et maintenant on en connaît quelques centaines. Donc une nouvelle classe d'objets qui ne sont pas vraiment des étoiles, qui ne pouvaient être découverts que par l'astronomie infrarouge ou la combinaison de l'infrarouge et visible. Parallèlement, là, on arrive au domaine qui nous intéresse, qui m'intéresse directement aujourd'hui, le domaine de l'univers profond, grâce au Hubble Space Telescope, qui a une caméra infrarouge, qui s'appelle NICMOS. NICMOS est devenu presque un nom commun pour les détecteurs en astronomie. NICMOS est un instrument du HST qui a eu de gros malheurs. Il est tombé en panne de cryogénie, et il a fallu attendre plusieurs années qu'on vienne le réparer. Donc les résultats qu'on a eus datent déjà d'il y a 5 ans. Il fonctionne maintenant très bien, mais on n'a pas encore vu les nouveaux résultats qui datent de la réparation, comme vous le savez, d'attendre il y a quelques mois. Bon, et en parallèle, vous avez donc eu le démarrage, à la fin des années 90, des énormes télescopes au sol. Jusqu'aux années 90, les télescopes au sol étaient limités en gros à 4 mètres. Et on a maintenant donc des télescopes de 8 ou 10 mètres qui fleurissent, je ne dirais pas un peu partout, mais enfin on va arriver à une dizaine dans quelques années. Qui, en particulier pour ceux qui fonctionnent depuis quelques années, sont tous équipés de caméras et de spectromètres infrarouges performants, de plus en plus performants, avec des adjonctions extrêmement importantes dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui sont l'interférométrie infrarouge. Donc le troisième, c'est un télescope japonais qui a sorti dans les deux dernières années quelques résultats tout à fait marquants. Donc si on passe dans le futur très proche, c'est SIRTIF. Donc ça va être une très grande mission américaine, que les Américains attendent depuis des années, sur lesquelles les Européens essayent d'avoir une petite place. On a déjà proposé des grands programmes, mais les Américains les ont réservés à leurs équipes. Et on va donc, il va y avoir une nouvelle phase de proposition d'observation sur lesquelles on essaye, on espère pouvoir prolonger et utiliser l'expérience qu'on a eue sur ISO. Les Japonais ont une mission un petit peu moins ambitieuse, mais avec un créneau bien ciblé, qui va se faire presque en parallèle. Les Allemands ont avec les Américains une participation à un projet très cher et finalement très difficile, qui est le successeur du KAO. Le KAO, c'était un petit avion. Celui-là, c'est un des gros Boeing. Vous voyez, le télescope est là, et percer un avion et mettre un télescope de 2 mètres au centre, c'est un problème absolument incroyable. Enfin, j'ai passé une heure dans un bus un jour avec l'ingénieur qui pilotait ça, l'ingénieur allemand. Il m'a dit qu'il avait été amené à résoudre des problèmes technologiques absolument fantastiques. Malheureusement, c'est un cas à peu près unique. Bon. Maintenant, vous avez deux grandes missions de l'Agence spatiale européenne qui sont presque en phase finale. Enfin, elles vont être lancées dans 5 ans. Ça donne l'ordre de grandeur de donner de l'espace. L'une va être un successeur de Kobe, infiniment plus performant, pour regarder en détail les particularités du rayonnement cosmologique. Celui-là va fonctionner dans le domaine submillimétrique, qui est un peu pour l'instant le domaine parent pauvre de l'astronomie, où ces galaxies très poussiéreuses émettent une grande partie de leur énergie, et on attend des résultats passionnants sur ces questions-là, sur bien. Bon, alors, en parallèle, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer au niveau du sol, en particulier VISTA, qui va être un télescope infrarouge spécialisé dans l'infrarouge pour faire des grandes cartes d'une grande partie du ciel à partir du Paranal. Et puis, il y a des projets qui pourraient être sélectionnés dans quelques années, soit des projets relativement modestes, les deux premiers qui sont là, soit déjà beaucoup plus ambitieux, celui-là voudrait détecter les supernovae très très loin dans l'univers pour mesurer la constante cosmologique. Celui-là devrait être une première étape d'étude en profondeur des poussières et des glaces de l'univers avec en arrière-pensée tous les problèmes d'exobiologie. Ces deux-là vont probablement être fusionnés, celui-là est américain, celui-là est européen. C'est une mission extrêmement ambitieuse avec l'idée de trouver des planètes terrestres. C'est Terrestrial Planet Finder, pour lequel on a besoin de faire de l'interférométrie dans l'espace, qu'on n'a pas encore fait. Enfin, ça va être le type de grand projet dans une dizaine d'années. Les dates qui sont là sont probablement quelque peu optimistes. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais je voudrais insister sur ce que représente cet énorme effort. Bon, il est clair que l'exploration de l'univers, l'exploration de l'univers au dehors de notre galaxie et même de notre galaxie, a été une des grandes réalisations de la science du XXe siècle. il y a 100 ans, la notion de galaxie n'était pas encore réellement. Des gens qui commençaient à la deviner, mais elle n'était pas acceptée. Et donc, en 100 ans, on est passé donc, de l'environnement du Soleil, de ce qu'on comprenait à peu près, les premières étoiles autour du Soleil, à l'univers tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. Et avec pas mal de détails, des modèles qui collent bien, c'est réfléchi au niveau de l'histoire de l'humanité, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais ça a un coût. Ces missions spatiales, bon, le coût moyen, il est souvent pas très loin d'un milliard, peut-être un peu moins, mais enfin, c'est plus qu'un demi-milliard d'euros hein, quand on est dans l'espace. Donc l'accumulation de tout ça, le coût du Hubble, vous savez qu'il est faramineux, en fait. Hein. Donc c'est un effort absolument fantastique qui a produit ces résultats, dont on espère qu'il va continuer à les produire, mais qu'on ne réalise peut-être pas toujours. Voici donc une de ces cartes profondes qu'on va avoir maintenant couramment. Prime pourrait nous donner sur presque tout le ciel quelque chose de ce type-là qu'on a actuellement sur un petit morceau, une petite fraction de degré carré. Ça a été obtenu donc avec l'instrument le plus performant dans l'espace, qui est NICMOS. Ici, simplement, juste pour terminer cette partie, un certain nombre, cette liste n'est certainement pas complète, mais ce qu'on peut appeler des découvertes importantes de l'astronomie infrarouge. D'abord sur les étoiles. Bon, toute cette problématique de jeunes étoiles, tout ce qu'on sait sur la formation des étoiles, si on n'avait pas l'infrarouge, ça serait très peu de choses. Hein. On voit les étoiles qui apparaissent, comme on les connaît depuis très longtemps, mais quand elles se débarrassent de leur poussière, mais ce qui se passe réellement important, ce qui conditionne la masse de l'étoile, la distribution de masse, c'est ce qui se passe caché dans ces enveloppes de poussière. Et donc, il n'y a que l'infrarouge qui peut nous y faire donner accès avec le millimétrique et le sous-millimétrique. Idem, alors, ces 10 circumstellaires, on en a vu un dans une phase tout à fait finale. Mais avant cela, il y a toute la phase de formation des planètes hein, qui nous concerne au premier chef. On pense qu'on comprend à peu près comment s'est formé le système solaire. Enfin, on pensait. Puis maintenant qu'on découvre toutes ces planètes autour des autres étoiles, avec des propriétés très variées, voire abracadabrantes, on se dit que tout ce qui se passe dans ces disques circumstellaires est un sujet d'étude qui est certainement fondamental si on veut comprendre exactement la fréquence des planètes habitables comme la Terre, etc. Et tout ça passe par l'infrarouge. Bon, j'ai parlé des vieilles étoiles tout à l'heure, ça représente du point de vue énergétique, du point de vue éléments synthétisés, des noyaux spéciaux qui sont faits dans ces étoiles, une problématique tout à fait importante. Les naines brunes, eh bien, on sait maintenant depuis une dizaine d'années à peu près, mais même pas, que la distribution des étoiles, ça ne s'arrête pas à un dixième de masse solaire ou quelque chose de ce genre comme on le savait jusque-là, mais que ça descend pratiquement jusqu'à la masse de Jupiter, c'est-à-dire un millième de masse solaire, avec des objets qui ont des propriétés complètement différentes des étoiles. Ce n'est plus des étoiles, des vraies étoiles, parce que la température centrale est plus suffisante pour brûler l'hydrogène en hélium. Le milieu interstellaire, bon, on a vu un certain nombre d'exemples, il y en a d'autres, et toute la problématique de ce milieu qui est essentielle pour, d'une part, former les étoiles, hein, les étoiles forment à partir de ces nuages de gaz interstellaire, et tout le cycle est tout à fait important. Le cycle de nucléosynthèse implique le milieu interstellaire aussi, et ça conditionne aussi l'évolution des galaxies et même la formation des galaxies. Notre Voie lactée, bon, c'est un exemple en particulier. Le trou noir central, c'est quand même un objet extrêmement impressionnant. C'est un petit trou noir par rapport à ce qu'il y a dans les quasars, mais néanmoins, c'est déjà quelques millions de masses solaires. Hein, il n'est pas très actif actuellement, mais il doit avoir des phases. Il a eu certainement des phases beaucoup plus actives dans le passé. Quant aux galaxies, eh bien, je vous ai dit que si on veut avoir un bilan global de la formation des étoiles, de ce qui se passe dans les galaxies, il faut absolument l'infrarouge, parce qu'il y a la moitié de la formation des étoiles qui se cache derrière la poussière et donc n'est accessible qu'en infrarouge. Bon, les planètes aussi, si on veut avoir le détail de ce qui se passe dans les planètes, la circulation dans les atmosphères de planètes comme Jupiter, la spectroscopie infrarouge est l'élément de travail habituel. Bon, donc maintenant... j'en arrive, je crois que pas si même le titre, à la deuxième partie, qui est la partie d'avenir. Elle est encore un peu hypothétique, hein, parce que la plupart des instruments dont je vais vous parler sont des instruments, y compris le NGST, qui devraient donc fonctionner, bien fonctionner, disons, dans une dizaine d'années, quasiment. Qui reste une opération extrêmement difficile. Hein, quand vous avez vu tous les hoquets de Hubble, on se dit que le NGST n'est pas du tout à l'abri d'une catastrophe, hein, comme toutes les missions spatiales. Bon, néanmoins, c'est certainement là qu'est l'avenir, et c'est en concentrant le plus grand télescope que peut se payer quasiment l'humanité actuellement, et en l'utilisant au mieux, donc en concentrant ses observations pour obtenir les meilleurs rendements, comme ça a été fait pour le HST, sur quelques champs profonds, qu'on obtiendra les connaissances sur le plus profond de l'univers. Mais ça va être concentré, un petit pinceau, sur une région infime de notre univers. Et comme on est curieux, on aimerait bien, on aime en parallèle, avoir une vue plus grossière, mais quand même une vue panoramique, sur très grande partie du ciel, voire tout le ciel si possible. Et c'est maintenant à notre portée également, pour un coût nettement plus modique, mais tout de même encore conséquent. Donc juste pour illustrer la problématique, je reprends donc maintenant l'échelle de temps, essentiellement de l'univers. Puis je vais passer à l'échelle de redshift, mais c'est plus abstrait. Donc pour l'instant, juste pour que vous ayez une vue intuitive des choses, nous sommes ici. Donc si nous remontons dans le passé, vous pouvez vous demander comment était l'univers il y a 1 milliard d'années. Il n'était pas très différent, mais c'était déjà un peu différent. Il y a 5 milliards d'années, ça commençait à être assez différent. Les galaxies terminaient leur phase de très grande formation d'étoiles, etc. Il y a 10 milliards d'années, il y a 10 milliards d'années qu'elle terminait cette phase. Il y a 12 milliards d'années, en gros, tout ça a des petites marges d'incertitude, mais c'est la séquence qui est importante, c'était le pic de la formation d'étoiles. Les galaxies étaient jeunes, exubérantes, entraient en collision beaucoup plus fréquente, elles s'étaient beaucoup plus serrées dans l'univers, qui ne s'était pas encore étendu comme il l'est maintenant, et ça les perturbait beaucoup. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, l'univers n'avait qu'un milliard d'années. Bon, l'âge, actuellement, on est à peu près sûr que c'est 13 ou 14 milliards d'années. L'âge, un petit peu entre guillemets, mais enfin, ça correspond quand même à une notion solide. On en est là, à peu près. On en est maintenant, vous voyez, à quelque chose qui est un petit peu plus loin, un petit peu plus jeune qu'un milliard d'années. Mais c'est la limite, c'est la frontière. On a quelques objets par là. Le grand redshift connu, il doit être actuellement vers 6 ou 7. Mais c'est quelques objets, donc ils ne sont pas représentatifs. Ce qu'on connaît bien, c'est, disons, par là. Ça commence à être bien connu, en particulier grâce à Hubble, au Keck et maintenant au VLT. Si on monte plus loin, eh bien, on peut partir de l'autre bout. L'autre bout, c'est le Big Bang. Et au départ, bon, vous aviez cette soupe, alors là, je vais vous montrer une figure. Ah oui, ça, c'est stupide. Voilà. Bon, ça, c'est un petit schéma que j'ai piqué dans un des derniers bouquins de Martin Rees, que je vous conseille d'ailleurs, ça s'appelle Cosmic Habitat. Vous savez qu'il y a une phase mystérieuse, encore très difficile pour la physique actuelle, avec ce qu'on pense, cette phase d'inflation qui a suivi le Big Bang. Ici, on est à quelques minutes, on forme les noyaux d'hélium, et ici, on recombine les électrons et les atomes, et les noyaux pour former les atomes. Ensuite, il y a une période que souvent on appelle l'âge noir, une période où l'univers est peu intéressant, il n'y a aucune structure, il n'y a pas de galaxies, pas d'étoiles, etc. Et il y a juste le rayonnement cosmologique qui est très homogène, et les atomes sont complètement inertes. Et puis, sous l'action des perturbations, des forces d'attraction gravitationnelle, cette soupe n'est pas tout à fait homogène, et donc ces petites perturbations finissent. Alors il y a toute la matière noire, on ne vous montre pas là-dedans, qui domine en fait ce rassemblement donc, de matière, et aux endroits où les perturbations sont les plus fortes, il y a quelques objets qui commencent à se former. Vous savez que les phases finales de formation, soit des étoiles, soit des galaxies, c'est catastrophique, c'est extrêmement rapide, et ça s'allume.
Et probablement les premiers quasars s'allument aussi vers ces régions, vers ces moments-là. Donc là, il y a une phase où il y a relativement peu de galaxies qui se situent donc à la fin de ce qu'on appelle l'âge noir, un petit peu avant la phase qu'on commence à bien connaître, qui se situe vers un milliard d'années, un petit peu plus, et où les galaxies sont celles qu'on voit dans les champs profonds de Hubble en particulier. Bon, je pense que je vais aller très vite. Alors, je finis pour faire la jonction ici. Donc, on est ici. On sait qu'on ne verra pas grand-chose quand on atteindra l'âge noir, mais il reste une période tout à fait essentielle où se sont formées les premières étoiles, les premières galaxies, les premières grosses galaxies, les premiers gros quasars, et où on pense qu'on comprend à peu près, mais on n'en est pas si sûr que ça. On aimerait bien donc vérifier les théories, qui sont très incertaines, et établir exactement ce qui s'est passé à l'aube, donc et ce qui conditionne l'évolution future des galaxies, car il y a des morceaux qui se sont formés à ce moment-là. On sait qu'il y a pas mal d'étoiles, enfin, même la majorité des étoiles de notre galaxie se sont formées, en gros, dans toute cette période-là. En fait, hein. Donc, ici, mais aussi dans les premiers âges. Alors, si, je voulais vous montrer, il y a une échelle ici qui est tout à fait importante, c'est l'échelle du redshift, le décalage spectral. Et c'est une échelle très commode, parce que ça se mesure très simplement. Vous prenez un spectre de galaxie, si vous repérez les raies, vous voyez immédiatement de combien elles sont décalées, donc où se trouve la galaxie. Donc cette échelle, qui a une correspondance tout à fait biunivoque avec l'âge de la galaxie, est tout à fait essentielle. Je vais revenir sur ce décalage spectral, qui prend des valeurs très élevées, alors que la notion courante de l'effet Doppler est là. Bon, je vous avais préparé un détail, mais enfin, vous savez que vous avez, je pense, déjà entendu un certain nombre de fois l'interprétation de l'effet Doppler. Quand une galaxie s'éloigne de nous, c'est comme un train qui s'éloigne, son sifflet devient plus grave. Donc sa longueur d'onde, la longueur d'onde d'une raie d'un atome va devenir plus rouge. Fréquence plus grave, c'est plus basse, longueur d'onde plus longue. Donc ça se traduit dans les spectres. Vous avez donc spectre de galaxie normale, qui est là, pour être une étoile aussi. Et quand elle est décalée, vous voyez ici, c'est quand même c'est un petit décalage, il y a un décalage vers le rouge qui dépend de la vitesse de la galaxie. Alors, cette vitesse, donc ce décalage, quand la vitesse est petite, c'est proportionnel à la vitesse. Quand la vitesse et ça a été la grande découverte de Hubble qui a conduit à la vision de l'univers en expansion et du Big Bang, de notre histoire, que plus les distances sont grandes, plus la vitesse est importante. Donc on définit de façon générale ce décalage spectral comme la différence entre la longueur d'onde qu'on reçoit et la longueur d'onde qu'avait émise l'atome, rapportée à la longueur d'onde de l'atome, c'est une différence relative. Quand la vitesse est petite, c'est quelque chose qui est tout petit, z. Si vous avez des vitesses qui vont jusqu'à quelques milliers de kilomètres par seconde, c'est petit devant la vitesse de la lumière qui fait 300 000 km par seconde. Mais il arrive un moment où la vitesse peut approcher la vitesse de la lumière. À ce moment-là, donc, vous savez qu'il se passe des choses, qu'on ne peut plus appliquer notre physique simpliste au voisinage de la vitesse de la lumière, qu'il faut faire appel à la théorie de la relativité. Des choses bien connues. Et donc, mais rien n'empêche que ce décalage spectral dépasse 1. Par exemple, j'ai pris ici un exemple où le décalage spectral est 2. Si je considère une des raies les plus importantes en astronomie, une des raies de l'atome d'hydrogène, H alpha, normalement elle est émise dans le rouge, à 0,66 nanomètres en gros. J'espère que je m'en suis bien souvenu. Si il y a un décalage de 2 qui s'ajoute à la longueur d'onde, ça fait un facteur 3 sur la longueur d'onde initiale, et au lieu d'avoir 0,66 micromètres, vous arrivez à 2 micromètres. Donc cette raie de H-alpha, hein, qui a été un outil de travail pour des générations d'astronomes, de spectroscopistes, d'astronomes sur les étoiles voisines, eh bien, si vous voulez l'utiliser pour faire des diagnostics sur des galaxies à grande distance, il faut aller la chercher où elle est, où elle vous paraît, et c'est donc dans l'infrarouge. Et vous avez là toute l'explication du fait que le successeur de Hubble va être un télescope infrarouge. Parce que tout ce qui se passe d'important dans la lumière qu'on, pas tout, mais enfin, le plus important, dans la lumière qu'on va recevoir des galaxies lointaines, à des redshifts qui vont dépasser 2, et vous avez vu que ce qui est intéressant, c'est entre 5 et 30, eh bien, c'est dans l'infrarouge. Vous pouvez prendre même l'autre grande raie de l'hydrogène, la raie Lyman alpha, qui est dans l'ultraviolet lointain. Si vous prenez un redshift de 30, elle va être décalée dans l'infrarouge. Elle va être à 4 micromètres, alors qu'elle est très loin dans l'ultraviolet. Bon, en fait... Comme je vous l'ai dit, la petite théorie là, de l'effet Doppler du train, ça ne marche plus. Par contre, la bonne image qu'on peut avoir là, c'est de se dire que dans l'univers, quand il se dilate, toutes les distances sont dilatées. Eh bien, les longueurs d'onde des photons, elles sont également dilatées. De même, les longueurs d'onde des photons du rayonnement cosmologique, elles ont été émises typiquement dans l'infrarouge, mais maintenant, avec un décalage de l'ordre de 1000, elles se situent dans le domaine millimétrique. Donc, d'une certaine façon, ce paramètre Z qui vous montre la dilatation des longueurs d'onde vous reflète directement la dilatation de l'univers. Et c'est pour ça que les astronomes s'accrochent à ce paramètre, même s'il peut paraître un petit peu abstrait. C'est une mesure directe, une échelle très simple, qui se mesure très simplement, une échelle donc des distances et des temps dans l'univers, et une mesure directe, même vraiment très très directe, de la dilatation de l'univers. Alors, bon, ça, c'était un transparent que mes collègues américains de notre mission avaient fait pour essayer de convaincre les administratifs de la NASA, mais ça n'a pas marché. Bon, j'en reviens donc maintenant aux instruments pour ce travail. Donc, je vais essentiellement d'abord vous parler du NGST en mettant en perspective avec Hubble, et puis je terminerai très rapidement par deux mots sur ce qu'on peut faire maintenant. Alors, voilà une image que vous avez tous vue aussi, qui a fait le tour du monde, qui a été un des grands succès de Hubble, c'est ce champ profond. Maintenant, il y en a d'autres. Mais ce champ profond, le directeur de l'époque, Wilson, a eu vraiment la bonne intuition qu'il fallait matraquer sur un champ. Ils ont passé 10 jours d'intégration. Ils ont fait une pause de 10 jours sur ce champ-là, hein, avec 150 orbites du télescope. En fait, hein, et puis, on y est revenu. Et maintenant, on a des observations complémentaires depuis la radio jusqu'aux X de ce champ-là qui ont consommé des heures et des heures des meilleurs instruments du monde, des satellites X, etc. Et donc, on a maintenant, comme je vous le disais, un bon panorama, un échantillon de l'univers à, pour dire à peu près 1 milliard d'années, hein, quand il est à 12 milliards d'années en arrière. Vous voyez la variété de ce bestiaire. Hein. C'est des galaxies, qui, bon, on sait que les galaxies de notre environnement ont des formes variées et différentes. Ici, ça a été un petit peu une surprise, pas complètement. Il y a quelques grosses galaxies qui sont déjà bien formées, qui ont déjà eu une vie, hein, qui ont vécu depuis pas plus d'un milliard d'années, mais enfin quand même, hein, ça fait du temps. Et puis vous avez une poussière de petites choses. Vous avez des endroits où manifestement ces petites choses interagissent. On sait que quand les galaxies interagissent, comme c'est des boules de gaz, elles ont tendance à fusionner. Vous avez des petits groupements, vous avez donc des plus rouges, des plus bleus, comme d'habitude. Mais donc on a là un panorama, et c'est complété par de la spectroscopie à partir des grands télescopes au sol, un panorama de ce qu'était l'univers. Et ce qui est aussi très important, c'est que l'univers, finalement, est très homogène. C'est un peu décevant. Hein. Mais on peut dire, à la limite, en prenant un bout d'univers comme ça, on sait presque tout ce qui se passe dans tout l'univers. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais quand vous dépassez certaines échelles, c'est un petit peu plus grand que ce champ-là, mais pas énormément, vous retrouvez la même statistique sur les galaxies, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais vous montrer quelques exemples. Mais alors, voilà maintenant le successeur, qui est une entreprise extrêmement ambitieuse. Déjà, Hubble était mettre un télescope de 2,40 m dans l'espace dans les années 80, ça a été quelque chose extrêmement difficile. Et donc, voilà ce type de télescope, qui s'appelle maintenant John Webb Space Telescope, il va bien falloir s'y habituer, qui aura, ils disent, un diamètre au minimum de 6 mètres, enfin déjà, comme ils auront du mal avec le budget pour 6 mètres, ça m'étonnerait que ça dépasse 6 mètres, qui va avoir cette forme. Le contrat a été passé avec l'industriel, ce n'est pas tout à fait $1 milliard, mais pas très loin. Vous voyez, c'est ça le miroir. On a du mal à bien voir l'image. Ça, c'est les panneaux solaires. Voilà les trois pieds de tripode du miroir secondaire. Donc la lumière arrive des étoiles comme ça, se réfléchit sur le miroir secondaire, puis on passe dans le trou central et va voir les détecteurs, qui vont être des détecteurs extrêmement élaborés à l'intérieur. Alors, il va être mis au point de Lagrange, L2. Alors, ce point de Lagrange, c'est un point assez particulier, où les corps peuvent rester en stabilité. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer. Enfin, ce qui est important, c'est que c'est loin de la Terre et loin du Soleil. Donc, il y aura peu de perturbations. Voilà donc un autre concept, un concurrent qui n'a pas été retenu. Et le domaine de longueur d'onde, c'est le domaine de l'infrarouge proche, entre 1 et 5 microns, étendu jusqu'à 30 microns, mais de façon un peu secondaire. Et quand vous lisez tous les communiqués de presse, le gros objectif, c'est voir l'émergence des premières galaxies de ce fameux âge noir. C'est vraiment un des problèmes clés actuels de l'astronomie moderne, de comprendre comment se sont formées ces premières galaxies pour aboutir à celles qu'on a vues quelques centaines de millions d'années après dans le champ de Hubble. Juste pour vous montrer un petit peu, juste, je pense que c'est une minute pour vous montrer cette photo, parce qu'on voit la même galaxie décalé vers le rouge. Ça vous montre bien. Déjà, elle est à z égale 3 ici. Donc, quand elle était à z égale 0, il y aurait la même forme, mais pas ici. Et vous voyez, quand on la met à z égale 8 et à z égale 20, elle part vers le rouge, puis elle décroît parce qu'elle s'éloigne ici. Et vous voyez que la sensibilité du mode le plus profond du NGST doit permettre de détecter, ça c'est typiquement une de ces petites galaxies, ces petits points bleus qu'on voyait sur le Hubble Deep Field, à z égale 3, on doit pouvoir la détecter difficilement, mais si on y met le prix, jusqu'à z égale 20, et peut-être 30. Donc s'il y a des galaxies comme ça, ce qui n'est pas évident, déjà formées, donc quand l'univers à z égale 20, il avait quelques centaines de millions d'années, pas plus, le NGST, le JWST, peut les voir. On pense même voir des amas globulaires, vous savez, ce n'est pas des galaxies, c'est des groupes d'étoiles, jusqu'à des redshifts tout à fait énormes. C'est tout à fait absolument extraordinaire. Bon, ici, je reviens un tout petit peu sur le deuxième type de manip, et pourquoi c'est intéressant, parallèlement à ces objets qui concentrent tous leurs moyens sur l'étude la plus profonde qu'on puisse avoir d'un point très limité dans l'univers. C'est important parce que l'univers est homogène. Par contre, comme je le disais, si on veut être exhaustif, si on veut être sûr que quand on regarde dans quelques endroits particuliers, on ne rate pas ce qui est important à côté, on aimerait bien connaître, et de plus en plus, et c'est fantastique qu'on puisse se poser la question, connaître l'univers en profondeur, surtout le ciel, jusqu'à 12 milliards d'années de nous, c'est un rêve que les astronomes, même il y a une génération, ou même au début de ma carrière, n'envisageaient absolument pas. Donc il y a l'intérêt d'être exhaustif. C'est aussi important si vous avez d'autres observations qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas au même endroit. De pouvoir combiner sur les mêmes objets les observations à d'autres longueurs d'onde, c'est absolument essentiel pour les comprendre et même pour les trier. Et enfin, ça permet de repérer les objets les plus rares. Les objets qui, à la limite, sont des exemplaires uniques dans tout l'univers. On peut se poser la question, quelle est la planète libre la plus proche de la Terre, par exemple. La naine brune la plus proche de la Terre. Ou, on s'est posé la question dans le passé sur les amas de galaxies, sur certains types d'étoiles. Ou aussi les premiers, on a parlé des galaxies, les premières galaxies massives à s'allumer, ça nous dit quelque chose sur ce qui se passe dans l'univers aussi. Et c'est une classe limitée, qui va perturber l'environnement. Les premiers quasars, hein, ces monstres qui ont des trous noirs, qui font très tôt, hein, on travaille dessus et on les détecte en ondes radio, qui font très tôt 1 milliard de masses solaires. Hein. Les redshifts 5, vous avez déjà des quasars avec 1 milliard de masses solaires. Hein. Comment ils sont formés? On n'en est pas sûr du tout. Enfin, il y a des hasards. En particulier, vous avez entendu parler de l'optique gravitationnelle, hein, de l'amplification gravitationnelle par des galaxies ou des amas. C'est des phénomènes d'optique compliqués. Mais il se trouve qu'il y a des caustiques, hein, comme il y a des caustiques dans les lentilles optiques normales, et que si vous avez un objet juste sur cette caustique, et il peut avoir une amplification gravitationnelle par un facteur 10, 50, ou même peut-être dans des cas plus, dans des cas tout à fait exceptionnels. Ça vous donne un effet de loupe, hein, et si vous avez la chance de repérer cet objet, vous pouvez donc voir, et s'il est très loin, hein, si vous pouvez de cette façon espérer voir par exemple un des premiers amas gravitationnels qui se sont formés dans l'univers. Hein, si vous avez la chance d'en avoir un qui est amplifié par cette... Et on sait que c'est des choses très rares, et pour les trouver, ben, il faut chercher partout. Et savoir trier. D'où la motivation de regarder partout avec une sensibilité beaucoup plus faible. C'est important aussi pour bien voir ce qui se passe sur les structures de l'univers à plus ou moins grande échelle, et donc en particulier pour préparer les observations du NGST. Alors, ça c'est le panorama de ce qui existe, je ne vais pas vous le détailler. Jusqu'ici, il y a eu de gros efforts. Les Américains terminent une très grosse opération doit friser ou dépasser les 50 millions d'euros, je pense, pour faire une carte du ciel avec des spectres dont vous allez voir un début de résultat. Et ici, ça c'est une opération que les Anglais ont fait avec les Australiens sur un télescope d'Australie. Et ça c'est... Alors vous avez tous vu ces cartes, hein, qui représente, donc, ça c'est la distance qui est là. Donc ici, vous avez à peu près 1 milliard d'années-lumière, là. Par là. Par ici. Ici, 1,5 milliard, en gros. Non, mais c'est un redshift seulement de 0,1, 0,2. Hein. C'est des tout petits redshifts par rapport à ce qui nous intéresse. Donc on sait faire une carte, mais c'est d'un univers très local. Hein. Un redshift, c'est très très local. On sait maintenant, avec un grand luxe de détails, on va faire des statistiques là-dessus qui vont nous donner des paramètres sur la matière noire, etc. Mais on aimerait voir ce qui se passe plus loin. Donc, une des possibilités, alors plus loin, c'est l'infrarouge, et on peut faire donc des grandes cartes du ciel en infrarouge. Le projet, un des projets les plus ambitieux, c'était ce projet PRIME, hein, auquel j'ai trouvé tout à fait exaltant de participer, hein, de se dire de participer à une entreprise pareille, même si au départ, elle n'est pas sélectionnée cette fois-ci. Mais elle est tellement attrayante que ce type d'opération se fera certainement un jour ou l'autre. L'idée, et on est en mesure de le faire actuellement, je vous disais que Tumas a été une entreprise extrêmement bien menée par nos collègues américains, à un coût aussi très élevé, hein, c'est un coût comparable à celui du Survey, le Sloan, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ils sont en train de publier leurs données. Évidemment, il faut des années pour digérer les données de ce type d'opération. On est en mesure actuellement de dire que si on lance une opération dans l'espace qui volera dans 3 ans, qu'on peut battre Tumas par un facteur 500. Enfin, si vous réfléchissez, ce que c'est. Hein. Souvent, on gagne un facteur 2 ou 3, ça permet déjà de faire des progrès scientifiques tout à fait sociaux. Là, on est en mesure de gagner un facteur 500. Alors, on ne le gagnera pas d'un coup, parce que Prime est retardé, mais il y a des étapes intermédiaires, qui sont en particulier VISTA. Donc voilà le concept qu'on avait. Voilà une nouvelle fois le problème du décalage par les chiffres. Ça, c'est un spectre d'un gros quasar. Voilà le spectre qu'on a quand on le regarde dans le visible tout près de chez nous. Voilà le spectre, là, quand on est déjà à Z égale 2, où on voit arriver des raies ultraviolets dans le visible et puis des raies visibles qui partent dans l'infrarouge. Voilà ce que ça deviendra à Z égale 12, Z égale 25. Et vous voyez qu'avec un petit télescope simplement de 75 cm dans l'espace, une petite mission, on est capable de détecter ce type de quasar jusqu'à l'époque où ils sont formés. Ils ne sont probablement pas formés à Z égale 25, mais à Z égale 12. Bon, là, on met en perspective, et ça va me servir juste à comparer omissions, étapes qui vont permettre de... Vous voyez, on part d'ici, on est là aujourd'hui. Ici, c'est le nombre d'objets qu'on peut détecter, c'est un peu plus que la sensibilité. Et voilà ce qu'on pourrait faire sur un quart du ciel, et même maintenant, si on attend un an ou deux, sur tout le ciel, avec ce type de mission. Vous voyez qu'on gagne en nombre d'objets un facteur 3000. Et alors, il va y avoir ici tout un chapelet de manip intermédiaires. Celle-là qui va démarrer en fait 2005, ça sera le résultat ici. Ça va démarrer l'année prochaine. Et Vista va démarrer en 2007. Je vais terminer là-dessus. Comme je vous le disais, dans ces fenêtres infrarouges, on peut quand même faire pas mal de choses du sol. Et c'est quand même beaucoup moins cher. D'autant plus qu'on a maintenant, avec la construction des télescopes de 8 mètres, des télescopes de 4 mètres, qui sont quand même beaucoup plus grands que ce qu'on avait dans l'espace, dont on ne sait plus très bien quoi faire, qu'on va mettre à la ferraille un jour ou l'autre, mais qui, en attendant, on peut spécialiser dans ce genre d'opération. Donc les Anglais ont un télescope infrarouge à Mauna Kea, et ils ont un programme ambitieux qui va démarrer incessamment. Voilà ce qu'ils vont couvrir du ciel. Vous voyez, c'est que 10% du ciel. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Il y a en particulier une bonne partie de la Voie lactée, qu'on voit depuis Hawaï. On ne voit pas le sud, il faudrait aller. Donc, et puis ils vont faire des champs profonds, enfin il y a toute une panoplie, et les Anglais savent très bien faire ce genre de choses. En parallèle, on a actuellement, qui démarre ces jours-ci, sur le télescope franco-canadien, qui a été une grande réussite dans les 20 dernières années, un relevé visible plus profond que le relevé de Sloan, dont je vous parlais tout à l'heure, dont on a vu les images là, des grandes structures. Donc, et qui va être assez nettement plus profond, sans la spectroscopie, qui a tout un tas d'objectifs. Et il sera intéressant de regarder les mêmes champs avec une caméra infrarouge qu'on est en train de commencer à construire avec l'aide de la Corée et de Taïwan, et qui devrait fonctionner 2004, c'est peut-être un peu optimiste, mais enfin certainement pas plus tard que 2005. Et enfin, donc il y a ce projet très ambitieux, qui est de la classe du projet du Sloan, qui était un projet anglais, que les Anglais ont importé dans la corbeille de Mariée quand ils sont entrés à l'ESO l'année dernière, et qui va donc observer une région du ciel infrarouge à peu près équivalente à celle de UKIPS, mais avec un facteur, disons, un facteur 10 plus profond. Donc un gain encore tout à fait important, ça prendra 10 ans, commençant en 2007. Et alors en parallèle, eh bien, il y a d'autres propositions de manip spatiale. Il y a en particulier un projet très attrayant qui est d'observer à des longueurs d'onde plus grandes. C'est différent, ça on ne peut absolument pas le faire du sol. Ça ressemblerait à ce que peut faire IRAS, mais avec un facteur, je ne sais pas, 1000 par rapport à ce qu'avait fait IRAS, ou quelque chose du genre, peut-être même un peu mieux. Donc c'est un projet qui n'est pas encore réellement sélectionné. Je serais peut-être prêt à parier sur ces chances. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près terminé. Je vous laisse ceci pour ceux qui voudraient aller surfer sur le web. Quelques adresses, enfin, vous connaissez certains de ces sites-là, évidemment. J'étais un petit peu long. Merci.
Bien, merci Alain. Alors, je vous rappelle que nous avons maintenant quelques questions. S'il vous plaît, levez la main parce que je vous rappelle que c'est enregistré. Donc vos questions aussi et les réponses seront enregistrées. Voilà, qui a des questions ?
Oui, bonsoir. Au début de votre exposé, vous avez parlé de nouvelles classes d'objets qui m'a un petit peu intrigué, une nouvelle classe d'objets faisant partie de la catégorie des naines brunes.
Oui.
Qu'ont-elles de spécial par rapport aux naines brunes qu'on connaissait déjà depuis quelques années ?
Oui, non. C'est seulement quelques années. Donc ça fait. Il y a 10 ans que On avait dû en repérer une ou deux dont on n'était pas très sûr que ce soit des naines brunes, qui étaient liées à des étoiles. Et puis, bon, on en connaît maintenant plusieurs centaines, hein, grâce essentiellement à ces relevés infrarouges. Elles sont de différentes natures, hein, suivant leur température, suivant leur atmosphère. Il y en a qui ont une atmosphère plus ou moins chaude. Donc les premières ressemblent encore beaucoup à des étoiles. Elles ont une source d'énergie interne qui reste importante sur la combustion du deutérium. Le deutérium est un isotope fragile qui peut se brûler à des températures plus faibles que l'hydrogène. Donc il y a toute une gamme de masses où vous avez l'hydrogène, où vous avez le deutérium, qui permet de maintenir pendant un certain temps une température qui n'est pas très loin de celle des étoiles. Et puis ensuite, eh bien, quand la température se diminue, les conditions dans ces atmosphères finalement ressemblent un peu à ce qu'on a dans les planètes. Et vous avez un phénomène auquel on ne s'attendait pas absolument au départ, puis en réfléchissant, on s'est dit qu'il devait se produire. Tous ces objets-là, qu'on a l'habitude, quand on prend les objets froids, ils deviennent poussiéreux. Donc c'est vrai, dans ces objets-là, il y a une phase où il y a de la poussière. Mais cette poussière, on est maintenant persuadé qu'elle tombe dans l'étoile. Il y a une espèce de grêle, elle sédimente, ces grains de carbone ou de silicate s'enfoncent dans les couches profondes de l'étoile, et vous voyez le gaz avec des molécules et la lune chimique qui ressemble à ce qu'on a dans Jupiter, avec en particulier prédominance du méthane, un peu d'ammoniac. Alors, on peut se poser la question de continuer jusqu'à Jupiter. Et en fait, on a trouvé, et là c'est beaucoup plus récent, je pense que ça doit dater d'il y a à peu près 2 ans, dans des régions particulières, des objets de masse encore plus petite, qui ont 10 fois la masse de Jupiter, auxquels on pensait, qui en particulier dans Orion et dans d'autres régions de formation d'étoiles, on détecte un grand nombre de ces tout petits objets qui sont encore très jeunes, qui ont moins de 1 million d'années, quelque chose de genre, peut-être quelques millions d'années. Donc qui sont encore chauds, qui continuent à se condenser, et donc il y a de l'énergie gravitationnelle. Quand le gaz extérieur tombe, ça dégage de l'énergie. Donc ça les maintient assez chauds pour qu'on les voit. Et donc, logiquement, il a dû s'en former comme ça pendant toute la durée de vie de la galaxie. Il doit y en avoir des tas qui se baladent dans la galaxie et qu'on est totalement incapable de voir. Alors, on peut se poser la question, avec l'augmentation donc, de nos sensibilités, qu'est-ce qu'on peut voir au voisinage du Soleil? Et les calculs disent qu'on a des chances de trouver un de ces objets à quelques dizaines d'années-lumière, voire une centaine d'années-lumière. Mais ça dépend, ça nous renseignera sur la façon dont ils se baladent dans la galaxie, etc. Mais il y a tout un champ d'études qui est ouvert pour ce type de manip infrarouge. On avait calculé qu'avec Prime, on devrait en détecter presque 1 million. Les naines brunes, pas les planètes.
Merci. Question ? Oui ?
Monsieur, pourrais-je savoir un éther se situe où dans l'infrarouge ?
C'est une très intéressante question. Bon, vous avez vu, c'est 300 Kelvin. Donc, ça pique, on aurait dû réviser, mais c'est vers entre 5 et 10 microns, probablement. Donc, c'est un infrarouge juste un petit peu plus lointain que celui dont je vous ai parlé ici. Et en particulier, et alors, comme la Terre a une atmosphère, il y a des signatures spectrales tout à fait intéressantes, de l'oxygène moléculaire, de l'ozone, de l'eau et du gaz carbonique, l'anhydride de carbone. Et c'est un des rares moyens, quand on a réfléchi comment essayer de mettre en évidence l'existence d'une sphère biologique dans une planète, vous savez que l'atmosphère de la Terre a été conditionnée par la vie. On n'aurait pas cette quantité d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre s'il n'y avait pas eu de vie. D'où l'idée d'essayer de détecter dans toutes ces exoplanètes qu'on détecte autour des autres étoiles, et actuellement, ce n'est pas vraiment des planètes de la taille de la Terre qu'on détecte couramment. On commence à approcher cette limite-là. Mais donc, dans 10 ou 20 ans, on sera en mesure donc, de détecter des planètes de la taille de la Terre, et même avant, il y a tout un tas de missions spatiales qui le feront avant. Et on espère, avec des missions extrêmement ambitieuses, Je ne suis pas sûr que ça se passera dans la prochaine décennie. On espère pouvoir faire de la spectroscopie de l'atmosphère de ces planètes et de voir s'il y a de l'oxygène.
Premiers objets qu'on s'attend à trouver au sortir de l'âge noir, des étoiles, des superamas, des petites
galaxies.
Alors,
bon, il y a les plus éminents théoriciens, en particulier Martin Rees, hein, qui ont pas mal travaillé sur la question, Chou et des gens de ce genre. Actuellement, il y a un consensus, mais tant qu'on ne l'aura pas vérifié, hein, que ce seraient des objets un peu de la taille des amas globulaires qui se formeraient. Quand on regarde les conditions physiques, bon, c'est un gaz très particulier, parce qu'il n'y a pas de métaux, pas de poussière. Bon, il semble bien que la masse, ce qui est relié à la masse de Jeans, c'est l'autre genre, ce soit quelque chose de l'ordre de centaines de milliers ou de quelques millions d'étoiles comme le Soleil. Et qui pourrait se former à des redshifts de l'ordre de 20 ou 30.
Questions ? D'autres questions ? Non ? Ah.
Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'avec les progrès qu'on fait dans l'infrarouge, on pourra observer éventuellement la ceinture de Kuiper, enfin les objets très lointains de la ceinture de Kuiper voir le nuage de Oort ?
Oui, c'est un des grands objectifs. Qu'on s'est posé d'ailleurs avec Prime. Alors, vous savez probablement que les astéroïdes, en fait, ont deux pics d'émission. L'un, c'est simplement la lumière du Soleil qui diffuse, qui réfléchit d'une certaine façon. Donc, il y a beaucoup de lumière visible. Puis ensuite, plus ils sont loin, ils sont froids. Et donc, ils émettent plus loin dans l'infrarouge. Et donc, il faut aller chercher l'émission vers 10 microns. Et donc, c'est vrai qu'on peut les détecter déjà en astronomie visible, les surveille, et en particulier, c'est un des grands objectifs du grand relevé qui se fait avec le télescope franco-canadien à Hawaï. Il y a tout un programme pour rechercher, et ils espèrent, je pense, en détecter à peu près 1 000 000 de nouveaux objets de Kuiper. Hein, donc, d'avoir une vue précise de ce qui se passe au-delà de Neptune. Peut-être pas tout à fait le nuage de Oort, mais enfin, on s'en approcherait. L'autre possibilité, et là, le projet américain de survey du ciel, de relever de tout le ciel dans l'infrarouge lointain, devrait aussi en détecter quelques-uns. Mais en fait, comme c'est un tout petit télescope, quant au NGST, ben, il ne passera probablement pas assez de temps. Il faut observer de façon répétée, hein, parce que non seulement les détecter, mais prouver que c'est des objets qui bougent, enfin avoir toute une stratégie d'observation assez particulière, et observer de très grandes régions à nouveau. Mais c'est vrai que c'est un des objectifs majeurs. Mais vous allez avoir des télescopes spécialisés hein, pour les recherches d'astéroïdes qui pourront aller probablement jusqu'au premier de ces objets, la ceinture de Kuiper.
Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, il nous reste encore une fois à remercier Alain Aumont pour son exposé. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour donc un exposé sur la cosmologie primordiale. Voilà, merci encore et bonne soirée.